Vous écoutez RFI, Radio France Internationale. Il est 3h30 en temps universel, 4h30 ici à Paris.
Édouard Dupénouat.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il est 5h30 à Khartoum. Et c'est une matinale très largement tournée vers le Soudan qui ouvre cette première édition africaine. 19 mois d'une guerre sans merci, sans pitié entre les camps de deux généraux, des dizaines de milliers de morts, des accusations de nettoyage ethnique, des viols systématiques. L'envoyé spécial de RFI a pu se rendre à Khartoum. Reportage, témoignage tout au long de cette journée. Journée qui est aussi celle de l'élimination des violences fondées sur le genre. Reportage à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, où une ONG édite un guide du savoir-vivre à l'égard de ces messieurs. La RDC et cette prise de position ferme du cardinal Ambongo, à quoi bon réformer la Constitution? Cela donnera-t-il du travail aux jeunes? Et puis à Busan, le monde se cherche un traité contre la pollution plastique. Reportage dans ce journal, dans une décharge de Nairobi, avec celle qui se brûle la santé à collecter les déchets qui s'amoncellent. L'un des très rares chiffres à peu près fiables sur la guerre au Soudan témoigne seul de la violence inouïe des combats. 11 millions de personnes ont dû fuir leur domicile depuis que le conflit a éclaté le 15 avril 2023. Les camps de deux généraux, Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo, dit Emeti, se livrent une lutte à mort pour le contrôle du pays. Les organisations humanitaires ont toutes les peines à travailler. Quant aux journalistes, il est quasi impossible pour eux de se rendre sur place. L'envoyé spécial de RFI a pu, malgré tout, passer quelques jours dans le pays pour raconter le quotidien de cette guerre, à laquelle on donne donc une large place aujourd'hui sur notre antenne. L'un des aspects les plus triviaux de ce conflit, c'est le nombre invraisemblable de morts au quotidien. Les cimetières de Khartoum sont pleins, les fossoyeurs creusent là où ils trouvent de la place. Reportage Elliot Brachet.
Dans le crépuscule, des hommes armés de pioches creusent des tombes. Oussama est venu enterrer son voisin, un menuisier tué ce matin dans un quartier résidentiel, cible des mortiers des forces de soutien rapide.
Depuis ce matin, ça n'arrête pas. Au moins 7 obus sont tombés. Des enfants et des femmes ont été blessés. Mon voisin était en train de dormir sur un lit. L'obus lui est tombé dessus. Le lit était pulvérisé et son corps démembré. On a dû le ramasser morceau par morceau.
Les funérailles s'enchaînent. Le doyen des fossoyeurs, Abedin Dirma, ne les compte plus.
On se retrouve à l'extérieur du cimetière. À l'intérieur, il n'y a plus de place. Alors on est venu creuser là, sur ce terrain vague. Ici, les jeunes venaient jouer au foot. Maintenant, il est couvert de tombes. Ces derniers jours, on enterre de plus en plus de morts tués par des tirs d'artillerie. Aujourd'hui, on creuse depuis la prière du matin. C'est tous les jours comme ça. On fait entre 15, 20, 30 enterrements quotidiens. On ne dort plus, de jour comme de nuit.
À cause des combats qui compliquent les déplacements, la plupart des morts ne passent ni à l'hôpital, ni à la morgue.
Quand il y a des batailles, des combats, les morts sont enterrés là où ils ont été tués. Les gens creusent à la va-vite pour ne pas que les cadavres pourrissent et répandent des maladies. Il y en a des tonnes, c'est impossible de compter. Les places, les maisons sont remplies de corps.
À l'extérieur du cimetière, d'autres familles attendent leur tour. Au loin, les combats font rage pour le contrôle de la capitale. Elliot Brachet, Khartoum, RFI.
Et dans 10 minutes aussi, parole d'une Soudanaise qui a accepté de se confier sur les viols qu'elle a subis. Cette arme de destruction massive employée systématiquement depuis le début de la guerre. Parce que c'est aussi une constante et un invariant de chaque conflit à travers le monde. Les femmes en sont les premières victimes. Aujourd'hui, 25 novembre, c'est d'ailleurs la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et on l'illustre maintenant à Goma, le chef-lieu du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Et pas tant pour parler des différents conflits d'ailleurs qui endeuillent cette province, mais plutôt des violences quotidiennes, domestiques, quasi invisibles. La CODESH, une ONG locale, mène un profond travail de sensibilisation des hommes. Elle a même édité un fascicule, le cahier de l'homme engagé, pour rappeler à ces messieurs deux, trois réalités. Reportage Denise Maéo.
Sur la couverture de la brochure, on voit une femme qui porte une pancarte « Non à la violence basée sur le genre ». Le document contient de courts messages qui incitent les hommes à s'engager dans ce combat comme des alliés. Espoir Kitumaini, chargé des programmes de l'ONG Kodesh, saisit chaque visite pour sensibiliser les hommes au changement.
Quand vous passez dans des cabarets maintenant, ce sont des hommes qui sont plus enivrés, qui viendront à la maison sans rien apporter et qui vont commencer les coups, les injures. Et qui cherche comment ravir la maman, l'épée qu'elle cherche.
Au-delà des conflits armés, L'exploitation de la femme est une forme de violence très répandue à Goma. Cette campagne sur la masculinité positive porte parfois ses fruits. Au sein de certains ménages, les femmes ont pu trouver une place plus équitable. Autre avancée notable, selon la Kodesh, la femme n'est plus écartée des héritages, alors que ce n'était pas le cas il y a quelques décennies. Denise Mayo, Goma, RFI.
L'actualité en République démocratique du Congo, c'est aussi cette nouvelle sortie très politique de l'archevêque de Kinshasa. Fridolin Ambongo, hier à l'occasion des journées diocésaines des jeunes, le cardinal s'en est vertement pris au projet de révision constitutionnelle porté par le président Félix Tshisekedi. Projet inopportun à ses yeux qui ne correspond en rien aux urgences et aux besoins des populations.
Comment comprendre que l'on passe du temps et que l'on dépense de l'énergie et même dépenser de l'argent à parler de l'opportunité ou pas du changement ou de la révision de la Constitution au lieu et place de s'occuper de cette jeunesse abandonnée? Est-ce que c'est le changement constitutionnel qui va nous donner du travail à la fin de nos études, qui va nous permettre de quitter Massina et arriver à Gombe à temps, sans embouteillage à Kinshasa? Tout ce temps qu'on perd, cette énergie autour des changements constitutionnels n'est qu'une distraction. Ne vous laissez donc pas tromper, ne cédez pas aux fausses promesses, ni aux marchands des illusions.
Le cardinal Fridolin Ambongo, propos recueillis par notre correspondant Pascal Moulégua. On parle aussi de ce projet de révision constitutionnelle avec le grand invité Afrique de RFI ce matin. Olivier Kamitatou, aujourd'hui porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi, fin connaisseur de l'actuelle constitution congolaise puisqu'il était président de l'Assemblée nationale lorsqu'elle a été promulguée en 2006. Vous en parlez aussi, auditeurs, auditrices de RFI, de ce projet de révision constitutionnelle et des oppositions qu'elle soulève et qu'elle fédère contre elle. C'est Nathalie Amar qui ouvre le débat tout à l'heure dans Appel sur l'actualité. Rendez-vous à 8h10 en temps universel. Pour l'heure, TU toujours, il est 3h37 et midi 37 à Busan. C'est dans cette ville de Corée du Sud que se joue peut-être l'avenir du plastique. Des représentants de 175 pays ont rendez-vous tout à l'heure pour un cinquième et sans doute dernier cycle de négociations pour un traité contraignant. Un texte où le monde s'engagerait fermement à lutter contre la pollution plastique. Elle représente 3,5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. L'une des manières de lutter, c'est de recycler ces plastiques. Et pour ça, il faut prendre en compte celles et ceux qui vont les chercher à la main dans des décharges immenses. 20 millions de personnes dans le monde vivent ou en tout cas survivent de cette activité, disent les Nations Unies. Dangereuse, toxique, épuisante, ils sont 8000 par exemple dans la décharge de Dandora, en banlieue de Nairobi. Reportage Gaël Lalex.
La décharge de Dandora s'étend sur 20 hectares. On y jette tout, nourriture, verre, métal, plastique ou produits chimiques. Et pour faire de la place, on brûle. Darakasa Atieno vient y chercher du plastique tous les jours.
J'arrive parfois à gagner 200 shillings, 1,50€. Ça m'aide à la maison. Je suis souvent malade, mais c'est normal ici. Quand il brûle les déchets et qu'il y a beaucoup de fumée, j'ai mal à la poitrine, de la fièvre et des maux de tête.
À Dandora, la décharge est parfois le seul horizon. Joyce Wangari collecte depuis qu'elle a 8 ans. Elle a commencé quand sa mère, ramasseuse avant elle, est tombée malade.
Ses poumons avaient lâché, même sa gorge, elle ne pouvait plus parler.
Et malgré les risques pour la santé, vous continuez à faire ça?
Je n'ai pas pu finir l'école, je ne vois pas où je peux aller, je ramasserai des déchets pour toujours.
Selon les Nations Unies, 60% du recyclage dans le monde se fait grâce aux ramasseurs de déchets. Pour que leur rôle soit reconnu, l'Association des déchets recyclables de Nairobi a été fondée il y a 5 ans. Solomon Njoroge, son président.
Quand on parle de transition écologique juste, on doit prendre en compte les ramasseurs. On veut qu'ils soient reconnus comme des acteurs clés du recyclage, qu'ils soient intégrés dans les décisions politiques, qu'ils aient l'opportunité de parler.
Selon l'ONU, moins de 10% des déchets plastiques dans le monde sont recyclés. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
Les poumons encombrés et les bronches en feu, nous sommes cette fois à Antananarive. Pour parler aussi de conséquences respiratoires, ces mois de novembre-décembre sont habituellement ceux où la qualité de l'air est la plus mauvaise, notamment à cause des feux agricoles autour de la capitale malgache. Ce week-end encore, les taux de particules fines étaient particulièrement élevés. Et ça s'est ressenti concrètement dans les hôpitaux et dans les cliniques où s'est rendu notre correspondant Guillaume Fabry.
Avec un taux de particules fines dans l'air 4 à 6 fois supérieur au seuil recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, la qualité de l'air est restée malsaine pour tout le monde ce week-end à Antananarivo. Jennifer a dû consulter un pédiatre pour son fils de 10 mois.
En fait, il avait beaucoup toussé, il avait le rhume aussi. Et lorsqu'on était arrivé au pédiatre, il a dit qu'il avait un problème respiratoire. Il lui a prescrit des sirops. Il y avait aussi le kiné pour faire sortir tout ce qui est de la saleté. Il faut lui protéger de la pollution. Il faut qu'il reste à l'abri, en fait, dans un endroit paisible, calme, avec de l'air pur.
Au centre pédiatrique Maassou, où elle s'est rendue, le docteur Mami Razafi Mandimbi reçoit jusqu'à 12 enfants quotidiennement pour des problèmes de santé liés à la pollution.
Ces derniers jours, il y a une grande recrudescence des difficultés respiratoires chez le nouveau-né, chez les nourrissons et même chez les enfants. C'est l'accentuation des toux, des difficultés respiratoires qui fait que les poumons s'infectent et qui entraîne la fièvre persistante nécessitant des antibiotiques. Et chaque jour, il y a au moins un ou bien deux ou bien trois bébés qui sont confrontés à une hospitalisation même face à la difficulté respiratoire ou seulement à la fièvre qui est mal tolérée.
Selon Météo Madagascar, les pluies tombées ces derniers jours pourraient améliorer la qualité de l'air. Guillaume Fabry, Antananarivo, RFI.
On a appris hier la mort de Breton Breitenbach, le peintre et poète sud-africain s'est éteint à l'âge de 85 ans. À Paris, où il résidait, il laisse derrière lui une œuvre dense et éclectique. Il était connu en Europe pour ses peintures, mais ce sont ses poèmes qui sont aujourd'hui dans les manuels scolaires sud-africains. Breton Breitenbach avait été un militant acharné contre le régime raciste de l'apartheid, ce qui lui a valu plus de 7 ans derrière les barreaux. On referme ce journal par de petits changements, ces small changes qui forment le titre du 4e album d'un maître déjà de la soul, Michael Kiwanuka, Ougandais de cœur britannique de naissance. On va avoir l'occasion de vous le faire écouter en longueur ce matin dans notre choix musical. Introduction, avant-propos avec José Marinho.
À 37 ans, la voix d'or de Michael Kiwanuka porte au plus haut l'étendard de ses racines ougandaises et atteint des sommets sur ce disque. People keep talking. Ses parents ougandais ont fui le dictateur Idi Amin Dada. Exilé à Londres, il y bâtit sa carrière empreinte d'identité africaine. Son nouvel album est traversé d'influences rock des années 70 venues de Zambie et du Nigeria. Comme il le rappelait dans ses disques précédents, Michael Kiwanuka n'oublie jamais qu'il est un homme noir dans un monde de blanc et incite au rassemblement notamment sur cette chanson. En une dizaine d'années, l'Ougandais Michael Kiwanuka, chanteur mais aussi guitariste et compositeur, s'est imposé comme une figure majeure de la soul du 21e siècle.
C'est ce qu'on appelle du riff qui sature. Michael Kiwanuka, 4e album. Small Changes avec José Marinho. Merci beaucoup. J'ajoute que la star sera en concert à Paris à la fin du mois de février. Vous écoutez Radio France Internationale et en temps universel, il est 3h44.
Pour réécouter ce journal, rendez-vous sur RFI.fr. Afrique Matin sur RFI. Édouard Dupenoit.
Un coup d'œil sur le menu du prochain quart d'heure avec l'épopée des Diables Noirs de Koumassi en Coupe de France. On en parle dans une dizaine de minutes avec les confrères de Mayotte la Première, les semenciers nerfs de l'agriculture. Ils se font entendre aussi parmi ces agriculteurs français qui disent leur colère. Marie-Pierre Olfan nous explique leur rôle crucial. On parle poisson frais et poulet fermier au Kenya avec une jeune entreprise qui assure des livraisons et des commandes parfaitement conservées. Ce sera le dossier Afrique Éco. Mais ce retour d'abord comme promis au Soudan pour le reportage de la rédaction. Pendant 3 jours, nous vous proposons une série de rencontres au plus près de ce conflit, la pire crise humanitaire du monde. En cette journée pour l'élimination des violences fondées sur le genre, c'est aux Soudanaises que nous donnons la parole. Depuis le début de la guerre, elles sont au premier rang des victimes. Les deux camps se livrent à des viols, même si les experts des Nations Unies estiment que les paramilitaires FSR ont institutionnalisé ce crime, cette arme de guerre, à un niveau rarement atteint. Celle que vous allez entendre ne s'appelle pas vraiment Fatima. L'anonymat était l'une des conditions de son témoignage. Les viols des FSR ont détruit sa vie et ce qu'elle a subi porte en plus le sceau de la honte. Elle a accepté de se livrer à Elliot Brachet.
Le 14 janvier 2024, Fatima est enlevée par 3 soldats des forces de soutien rapide. Au prétexte que son oncle travaille dans les douanes, elle est accusée de collaboration avec l'armée régulière.
Ils m'ont emmenée dans une maison obscure, il était minuit et demi environ. C'était très sombre, mais je pouvais sentir l'odeur du sang. Après m'avoir frappée, ils m'ont traînée par les jambes dans les escaliers jusqu'au 2e étage. Le plus gradé d'entre eux est venu à moi. Il m'a dit « Tu collabores avec l'armée, je vais te violer pour jeter la honte sur ton oncle ». J'ai dit que j'étais tout juste mariée, que j'étais encore vierge. Il a dit « Je ne connais pas ce mot ». Il m'a violée, il est redescendu, le 2e soldat est monté, puis le 3e.
Ce que raconte Fatima est arrivé à des milliers d'autres. Selon nos informations, les paramilitaires ont organisé un trafic d'esclaves sexuels à travers le pays. Des centaines de femmes ont été vendues sur des marchés au Darfour.
L'un d'entre eux a dit « Maintenant, on la bute ». Il a tiré en l'air, mais l'officier a dit « Non, moi je la veux, je la prends avec moi ». Il m'a dit que j'aurais la vie sauve à une condition. Tu rentres chez toi, tu prends tes affaires et à 5h du matin, tu pars avec moi. On va aller à Niala ou à El Fasher. Après m'avoir violée, j'étais devenue sa chose. Il pensait pouvoir faire de moi ce qu'il voulait. Quand je suis rentrée chez moi, je ne tenais plus debout. J'ai tout raconté à ma mère qui m'a dit « Tu ne pars pas avec eux ». Elle a demandé aux voisins de faire le guet. Il n'y avait personne dans la rue. À 3h du matin, on s'est enfui.
Une fois franchies les lignes de front, Fatima est interrogée par les renseignements de l'armée régulière. Ils veulent des informations sur l'ennemi. Personne ne se soucie de son état. C'est un nouvel enfer qui commence, celui du silence.
Quand mon mari l'a su, il s'est énervé, il a voulu divorcer. Au bout d'un mois, il a dit qu'il avait reçu un message de Dieu. Il a accepté de me garder à la condition que je ne dise rien, ni à sa famille, ni à personne. Chez nous, au Soudan, ce ne sont pas des choses qu'on peut dire, c'est la honte. En dehors de mes parents, de ma tante, personne ne sait.
4 ans après la révolution contre le régime d'Omar el-Bashir, qui avait porté un vent d'espoir pour les femmes, les Soudanaises sont les premières victimes de la guerre. Elliot Brachet, Khartoum, RFI.
Et ce sont des reportages que vous retrouvez sur notre application de podcast RFI Pure Radio. Dans une minute, le dossier Afrique Économie. Avant cela, les grands titres de l'actualité internationale de ce 25 novembre 2024, la date du jour justement. On vient de l'évoquer, cette journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Quelques chiffres d'abord pour illustrer cette réalité dans le monde. Au Mexique, 10 femmes meurent chaque jour sous les coups d'un homme. En Turquie, les féministes s'alarment de la hausse du nombre de féminicides, 48 rien que pour le mois d'octobre. Et puis en France, hasard du calendrier, dans le procès Pellico, on connaîtra aujourd'hui les réquisitions contre les 51 hommes. Jugée pour avoir violé Gisèle Pellico sous soumission chimique, elle avait été livrée à ses hommes par son mari qui la droguait. Ce coup de tonnerre dans la politique en Roumanie lors du premier tour de la présidentielle d'hier, c'est finalement Calin Georgescu, candidat pro-russe d'extrême droite, qui arrive en première position, 22,6% selon des résultats provisoires encore, contre 19,5% à Marcel Ciolacu, l'actuel premier ministre pro-européen. Second tour prévu le 8 décembre. Autre élection présidentielle en Uruguay. Le candidat de l'opposition de gauche, Yamandu Orsi, a remporté le second tour de cette élection. Il s'est imposé face au candidat de la droite, Alvaro Delgado. Et puis c'est une conférence qui se tient en Corée du Sud à Busan et que l'on évoquait aussi dans le journal. La 5e et dernière session en vue d'un traité contraignant sur la limitation de l'usage du plastique. 460 millions de tonnes sont produites chaque année, 22 millions finissent tous les ans dans la nature. Mais les pays producteurs de produits pétrochimiques comme l'Arabie Saoudite et la Chine se sont jusqu'ici opposés aux efforts qui visaient à cibler la production de ces matières plastiques. 4 ans d'existence seulement. Déjà une centaine d'employés et des rêves de grandeur. Le dossier Africeco maintenant au Kenya dans les pas de Keep It Cool. C'est le nom de cette entreprise qui propose des livraisons de produits frais, du poisson et du poulet. Des produits dont l'entreprise garantit deux choses. D'une part que la chaîne du froid est entièrement respectée et d'autre part que les produits ont été commandés à des pêcheurs et à des éleveurs kényans, eux qui parfois produisent à perte faute de pouvoir écouler leurs marchandises. Une entreprise qui vient de remporter un prix d'ailleurs pour sa contribution à une alimentation durable. Reportage Alban Tiroir.
Keep It Cool a son entrepôt en bordure de Nairobi. Ce matin-là, des caisses de poissons sont en train d'être déchargées d'un camion. Ce sont des tilapias en provenance de la rive ougandaise du lac Victoria. Une fois réceptionnés, les poissons suivent un parcours bien précis sous la supervision de Brenda Abucheli, responsable du contrôle qualité.
Une fois que les poissons sont déchargés, on les pèse puis on s'occupe de leur préparation. On commence par les caillages, puis on les vide et enfin on les lave. Une fois que tout ça a été fait, on les trie par taille, puis ils sont empaquetés et partent dans notre entrepôt de stockage où ils sont gardés au frais avant la vente.
En plus des tilapias, Keep It Cool reçoit aussi des perches du Nil du lac Turkana, au nord-ouest du Kenya. La start-up réceptionne en moyenne entre 15 à 20 tonnes de poissons par semaine et 1 à 2 tonnes de poulet. Ils partent ensuite vers des hôtels, restaurants ou même particuliers de Nairobi. À travers sa plateforme en ligne, Markiti, l'entreprise souhaite mieux connecter l'offre avec la demande. Francis Deritou, son directeur.
On commence par analyser la demande, principalement dans les zones urbaines. Puis on va voir les pêcheurs et on leur commande exactement ce dont nous avons besoin. Ça permet d'éviter la surpêche et les pertes. Une fois que c'est fait, nos camions partent récupérer les commandes. Les pêcheurs fonctionnent en coopérative, c'est à elles que nous commandons. Nous les avons équipés de machines à fabriquer de la glace et de glacières, ce qui permet aux pêcheurs de respecter la chaîne du froid. Ensuite, nous récupérons le poisson et le vendons.
Keep It Cool est né en 2020. Cette année-là, la pandémie de Covid-19 a perturbé les chaînes logistiques. Venant d'une famille d'agriculteurs, Francis Deritou dit en avoir vu les conséquences, des producteurs peinant à vendre leurs produits notamment.
Dans les régions rurales du Kenya, c'est un véritable problème. Même les bons jours, les producteurs peuvent perdre jusqu'à 40% de leur récolte, ce qui engendre par conséquent une perte de 40% de leurs revenus. C'est ce problème que nous tentons de résoudre, en introduisant non seulement un système de réfrigération abordable pour les producteurs, mais aussi en leur donnant accès à des marchés.
Keep It Cool compte aujourd'hui une centaine d'employés. La start-up ambitionne déjà de voir l'offre s'agrandir à d'autres produits et de toucher d'autres marchés de la région. Alman Tiran, Nairobi, RFI.
Nairobi, où il est 6h52. On parle agriculture aussi dans la chronique des matières premières et on remonte tout à la source, puisque l'on évoque ce matin les semenciers, un maillon peu connu du grand public mais essentiel. Ce sont eux qui fournissent les graines que les agriculteurs plantent et récoltent. En France, ils sont environ 16 000, frappés eux aussi de plein fouet par la météo chaotique de l'année écoulée. Et ils fournissent non seulement les cultivateurs français, mais pas uniquement, puisqu'ils exportent en fait un peu partout dans le monde. Marie-Pierre Olfan.
La filière semences a subi de plein fouet les caprices de la météo ces derniers mois. Les semences de céréales ont particulièrement souffert à cause de semis trop tardifs et d'une croissance contrariée par un trop plein de pluie. La récolte n'a pas été plus facile sur certaines parcelles totalement sous l'eau. Le bilan sera fait d'ici 2 ou 3 semaines, mais on sait déjà que cette année, marquée par une baisse des surfaces, a affecté les volumes de semences de tournesol, de soja et de sorgho. Celles de maïs s'en sortent mieux. Selon le bilan donné par l'Union française des semenciers, une organisation qui représente une centaine d'entreprises chargées de sélectionner des variétés et de produire des semences qui sont ensuite confiées aux agriculteurs pour être multipliées. En France, ils sont 16 000 à reproduire les semences sur environ 400 000 hectares. Une activité très technique qui doit être soutenue, selon l'UFS, pour mieux résister à la pression climatique et aux normes imposées. L'organisation plaide pour que les semences fassent partie des cultures prioritaires en matière d'accès à l'eau en cas de sécheresse. Elles devraient aussi, selon l'UFS, pouvoir bénéficier de tous les produits phytosanitaires autorisés en Europe, même ceux qui sont interdits en France, en attendant des alternatives. Car si l'année qui va commencer se passe comme celle qui vient de se terminer, maintenir le même niveau de production s'annonce compliqué, prévient la filière. Et si les volumes baissent, les prix augmenteront forcément. Il pourrait alors peser sur les charges des agriculteurs français, mais pas que. La moitié des semences produites en France est exportée. Hors Union européenne, les deux premiers marchés sont l'Ukraine et la Russie. Mais l'Hexagone fournit aussi le continent africain, l'Asie, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Des clients également soumis aux aléas climatiques et à l'affût de nouvelles variétés plus adaptées.
Marie-Pierre Olfan pour cette chronique des matières premières. Dans un peu plus de 5 minutes, Léa Boutin-Rivière revient pour l'actualité internationale sur RFI. Nous sommes d'abord avec les confrères du réseau La Première pour le journal de Mayotte et de La Réunion. La Réunion justement, où un théâtre vieux de 60 ans brade ses décors avant de se refaire une beauté. Tessa Groman, bonjour.
Bonjour, des visiteurs dans une brocante. C'est la dernière scène jouée ce dimanche au théâtre du Grand Marché à Saint-Denis. L'établissement historique ferme ses portes pour travaux pour une durée de 3 ans et tout le matériel du théâtre a été mis en vente. Un moment plein d'émotions et surtout un gros succès. Nicolas Laurent, directeur de production du théâtre du Grand Marché.
Les gens avaient envie, je pense, d'embarquer chez eux un bout du théâtre, un bout de pièces qu'ils ont pu voir, des éléments de décor, de scénos, de matériel son, matériel lumière. Les sièges aussi, il y avait une forte demande de pouvoir en récupérer.
Quelle pièce phare vous avez pu vendre là déjà ce matin ?
Une pièce qu'on a accueillie il y a un an et demi, qui s'appelle Institut Ophélie du Centre Dramatique de Montpellier. Une espèce de maison entièrement refaite. Et là, la maison, il ne reste plus grand-chose. Il reste quelques fondations, mais là, tout est parti. Il y a un petit pourcentage de nostalgie, mais il y a surtout beaucoup de joie et de bonheur parce que c'est des objets qui vont revivre une deuxième vie. C'est un théâtre qui se vide, mais pour mieux se refaire une beauté et reproposer dans quelques années des espaces dédiés vraiment à la création théâtrale contemporaine. Donc c'est chouette.
Samedi, des milliers de personnes ont manifesté partout en France à l'appel du collectif Nous Toutes. Une manifestation nationale pour dénoncer les violences faites aux femmes. À La Réunion, une marche était organisée à Saint-Denis. 250 personnes y ont participé pour rappeler que 15% des femmes réunionnaises sont victimes de violences conjugales, soit 3 fois plus que dans l'Hexagone. Nina Santi, Réunion La Première.
Victime, on te croit !
La Réunion ne doit plus se taire, c'est le slogan qu'a lancé Morgan Beg, bénévole au sein de Nous Toutes 974, pour lancer le cortège dans les rues piétonnes de la capitale.
C'est surtout parler pour ceux qui ne peuvent pas et qui n'osent pas parler, pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Le but, c'est de la visibilité, puisque l'objectif, c'est que l'État se rende compte qu'il y a quand même des milliers de personnes, majoritairement des femmes, qui souffrent.
Dans les rangs, des associations étudiantes, LGBT, le planning familial, ainsi que plusieurs syndicalistes comme Linda Diblard, secrétaire confédérale à la CGTR.
On tient la sonnette d'alarme parce que les chiffres sont très alarmants. Il y a plus de 30% de femmes qui ont déjà connu un harcèlement moral ou physique dans les entreprises, que ce soit publiques ou privées.
Pour les commerçants et les passants, ces voix et ces pancartes déclenchent aussi des prises de conscience.
Je défends ça, moi ça me fait plaisir de voir ça et surtout ça me fait plaisir que voir même il y a des hommes qui sont dans la marche aussi, c'est important.
Comme en 2022, La Réunion figure toujours dans le top 5 des départements de France les plus violents envers les femmes. En moyenne, un féminicide survient tous les 3 jours en France.
Ils souhaitaient atteindre Mayotte. Des Somaliens partis il y a 3 semaines de leur pays en bateau ont fait naufrage au large de Nosibé à Madagascar. 22 personnes ont perdu la vie sur les 70 passagers, dont 5 femmes mortes d'épuisement après avoir été secourues par des pêcheurs. Les Diables Noirs de Combani, accueillis en héros samedi à Mayotte après leur épopée en Coupe de France. Qualifiés pour le 8e tour de la Coupe nationale de football, de retour dans leur île, ils n'ont pas boudé leur plaisir. Raphaël Kahn.
Un retour tout sourire et un accueil de héros. Les colliers de fleurs s'empilent autour des coups. Pour les supporters, des selfies. Pour leurs proches, des embrassades au rythme des tambours. Pour les Diables Noirs, habitués de la Coupe de France, cette ferveur, ce n'est pas une surprise.
D'un côté, je m'y attendais, puisque on l'avait fait en 2017 et en 2022. En fait, on n'avait pas gagné et on avait déjà vu la ferveur qu'il y avait. Et je me disais bien qu'aujourd'hui qu'on est parti, on a gagné un match, on a bien représenté Mayotte. Donc je le sentais déjà qu'il y aurait une ferveur vraiment immense.
C'est un exploit de le faire avec des jeunes de 16 ans. Donc je suis vraiment fier de ces jeunes-là, je suis vraiment fier du club de Combani.
Pour le moment, les joueurs profitent de ce retour au pays triomphant.
Un reportage de Raphaël Kahn, Mayotte La Première. Bonne journée.
Merci, bonne journée à vous aussi, Tessa Groman. Merci à Laurent Hérault qui réalisait cette première demi-heure d'actualité africaine, l'actualité du continent qui revient sur RFI. À 4h30 en temps universel, vous serez avec Sébastien Duhamel, Céline Pellarin à la rédaction en chef de l'information ce matin. Quelques secondes encore pour passer un salut amical à Ernest Mbalnawej. Vous nous avez écrit de Lubumbashi où vous nous écoutez avec beaucoup de fidélité. Merci à vous. Je vous rappelle aussi que vous nous écrivez sur africematin@rfi.fr. Le journal dans une minute.
Bonjour, c'est Juan Gomez. En RDC, l'opposition prévoit des manifestations dans tout le pays pour dénoncer la possible révision de la Constitution. Que vous inspire ce front uni contre le projet du président Félix Tshisekedi ? Nathalie Amar lance le débat.
appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
parler et agir ensemble. Quelle solidarité entre les femmes victimes de violences.
Demain,
recherche d'emploi. Si vous êtes jeune diplômé, nos spécialistes vous conseillent.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.